Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
h 49, on est de retour et c'était la fille qui anime le poker à la télé de Rouge Pompier. C'était vraiment moins pire que je pensais. Je m'attendais vraiment à... Je sais pas à quoi je m'attendais, sincèrement. Mais c'était une petite tune assez rockée. On frôlait avec le métal. Il y a peut-être quelqu'un qui va me lancer des rushs parce que j'ai pas utilisé les bons styles. Ce n'est pas grave parce qu'on va parler, en fait, un petit peu des déboires, je vous dirais. Un petit peu des déboires libéraux. Des démocrates, en fait. Là. Des déboires démocrates aux États-Unis. Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réponse libérale, en fait, au duo Trump et Musk. Donc, en fait, c'est ça. Il y a plusieurs personnes qui ont dit, justement, que le Parti démocrate a... En fait, la résistance a échoué. Donc, la résistance a échoué face à Trump et Musk. A échoué face à Trump et Musk. Ou je vais juste dire Trump, ça va être plus simple. La résistance a échoué face à Trump. Parce que, techniquement, Musk n'est pas élu. Justement, James Carville, qui est un consultant américain en politique. Il est un consultant en politique américaine qui a été entre autres le stratégiste en chef de la campagne de Clinton, Bill Clinton, et il a conseillé en fait aux démocrates de se laisser faire et faire le mort jusqu'à ce que l'administration Trump s'effondre sous son propre poids. Le Parti démocrate devrait adopter la posture du cadavre et ça serait une approche plus sage que celle que nous avons suivie lors de la première administration Trump lorsque les démocrates ont essayé et échoué dans l'art de la politique de résistance. En soi, il n'y a pas tort, mais il y a un petit peu tort quand même. Il n'y a pas 100% raison. Parce que c'est ça, justement, selon Ezra Klein, les démocrates, en fait, ils ont réussi dans l'art de la politique de résistance. Donner un exemple, ils ont remporté les élections de mi-mandat de 2018 en renversant, entre autres, 40 sièges à la Chambre des représentants, 7 gouvernorats et 6 législatures d'État. Les démocrates ont gagné l'élection présidentielle de 2020, poussant Trump à l'exil à Mar-a-Lago. La résistance a réussi. Le problème était ce qui est venu ensuite, d'une certaine manière, ce qui est venu avant. Les démocrates ont échoué dans l'exercice du pouvoir. Puis ça, je pense que c'est quand même vrai. La résistance a été mitigée dans un sens. Je pense que Ezra Klein, justement, il sous-estime... ce que les démocrates ont tenté de faire, justement, en creusant le clivage politique entre les républicains et les démocrates. Puis ça l'a fait mal. Ça l'a vraiment créé, justement, une distance entre les deux. Et, justement, ils n'ont pas été capables, on va en parler dans pas longtemps, mais ils n'ont pas été capables, justement, de rallier leur base forte, mm-hmm. les démocrates. Fait qu'en créant ce clivage-là beaucoup plus sensé, ils ont créé. Ça a été vraiment difficile pour eux de se rallier, justement, et de gagner les élections, justement, et de gouverner avec sens. On va dire ça comme ça. Je vais vous donner un exemple. La mise... essayer de destituer Donald Trump pendant sa présidence, selon moi, c'était vraiment pas... Ça a vraiment pas été concluant. Je pense que ça leur a fait beaucoup plus mal qu'on le pensait. Ça l'a vraiment... Puis les médias, c'est un peu ça qu'ils ont raconté, tu sais, puis... C'est une tentative d'utiliser les outils constitutionnels pour créer un clivage puis de démoniser justement le Parti républicain. Ce qui a... Je cherche le mot en français, mais ça a backfire. Il y a eu un contre-coup assez prenant, puis on l'a vu dans les élections, justement. En tout cas, je crois. C'est ça. Trump a gagné en 2024, en fait, parce que les Américains étaient furieux du coup de la vie. Et faisait davantage confiance aux républicains qu'aux démocrates pour la faire baisser, en partie en cause de l'explosion de l'inflation post-pandémie qui a bouleversé l'économie de 2021 à 2023. Mais en 2020, avant cette flambée, les sondages de sortie des urnes montraient que les électeurs étaient partagés quant à savoir s'ils faisaient plus confiance à Trump ou à Joe Biden pour gérer l'économie. En 2016, Trump devançait Hillary Clinton sur cette question. Mais ça, c'est à chaque fois la rhétorique. C'est un homme... C'est un businessman.
C'est un homme d'affaires.
C'est un homme d'affaires, tu sais. Il y a tout le temps... McCarney, c'est la même chose. C'est l'image qu'il projette. C'est un banquier. Un banquier de renom. Les gens lui font confiance pour mener des négociations dures et Parce que ici, j'ai.
Hein? L'art du deal de
Donald Trump. Oui, c'est ça, c'est l'art du deal. Ce qui est un peu sans fondement, c'est semi sans fondement. Là.
Non, assez sans fondement, je dirais.
Il y a une part de vérité dans le sens que, oui, il gère une entreprise, il sait comment négocier. Le politique n'est pas une entreprise, en tout cas. Je ne crois pas qu'un gouvernement est une entreprise. On est très loin de là quand même.
Mais je pense aussi du côté des conseillers de Trump et des personnes qui sont proches de Trump, ils sortent de plus en plus là, pour dire que l'art du deal de Trump, c'est un peu n'importe quoi parce qu'il n'a pas l'air trop de savoir ce qu'il fait apparemment là, de ce que plusieurs en disent dans son entourage.
Mais le gouvernement, ce n'est pas une entreprise. Fait que tu ne peux pas gérer ça pareil. Fait que tu peux pas te déclarer faillite de ton casino puis sauver des impôts pendant 10 ans. Tu peux pas faire déclarer faillite l'administration publique.
Oui.
Fait que sa solution, c'est dire Musk, coupe dans tout. Bref. Donc, c'est ça. Il y a des nombreux démocrates qui pensent que ça découle en fait des années où Trump a joué le rôle d'un homme d'affaires à la télévision, comme on en parlait. C'est ça. C'est en partie vrai. Mais les démocrates, ça, ils ont laissé une crise de l'accessibilité financière à se propager sous leur surveillance d'une manière qu'ils ne peuvent pas attribuer à la perception ou au message. S'ils veulent, entre autres, marginaliser le MAGA, ils ont besoin de plus qu'une résidence. Ils ont besoin de nouvelles réponses qui reconnaissent les échecs du passé. On va donner un exemple. Regardez, c'est ça, les endroits où les démocrates gouvernent. Les bastions libéraux comme New York, l'Illinois et la Californie. En 2023, la Californie a enregistré une perte nette de 268 000 habitants. L'Illinois, une perte de 93 000. New York, une perte de 179 villes. Pourquoi? Ben, c'est parce que ça coûte cher. Le coût de la vie, en fait, il est trop élevé. Il est trop cher d'aller acheter une maison. Il est trop cher pour obtenir une garde d'enfant. Il faut vivre trop loin de son lieu de travail, donc il part vers des endroits où tout cela est moins cher. Texas, la Floride, puis l'Arizona. Pour les démocrates, c'est une crise politique. En soi, dans le système américain, perdre des habitants signifie perdre du pouvoir. Si ces tendances se maintiennent, le recensement de 2030 déplacera nettement le collège électoral vers la droite. Les États que Kamala Harris a rapportés en 2024 perdront peut-être jusqu'à une douzaine de sièges à la Chambre des représentants et de votes au collège électoral. Les États remportés, eux, par Trump, les gagneront. Puis dans ce collège électoral, un démocrate pourrait gagner tous les États remportés par Harris en 2004, plus le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, et malgré cela, perdre. C'est aussi une crise spirituelle.
Oui.
On ne peut pas être le parti des familles ouvrières lorsque les endroits où l'on gouverne sont des endroits où ces familles ne peuvent plus se permettre de vivre. On n'est pas le parti des familles ouvrières lorsque les endroits que l'on gouverne sont des endroits où ces familles ne peuvent plus se permettre de vivre. Je crois qu'on va peut-être vous envoyer, c'est ça, une petite pause musicale et pause publicitaire, puis on va se retrouver directement après pour continuer justement cette petite chronique-là, continuer de voir justement où est-ce que les démocrates ont un petit peu échoué. Donc, on s'en va écouter le dernier train de Karen Pinette-Fontaine. Petite pause publicitaire, on revient tout de suite après.